Les éditions de l'Avenir présentent Mazas Pavel, un monde en héritage, un roman fanique de l'univers de Perry Rhodan par André Bory, paru à l'origine dans Basis hors-série numéro 12. Chapitre 6. Après avoir avalé la dernière gorgée du sirop épais contenu dans son gobelet, l'émir s'essuya la bouche d'un revers de poignet, un peu lassé des agapes auxquelles il avait été convié par la tribu de ses deux nouveaux amis. Une chose l'énervait tout particulièrement. Alors que les indigènes correspondaient télépathiquement avec lui, il était toujours dans l'incapacité de leur répondre autrement qu'en paroles, tout en s'évertuant de visualiser mentalement ce qu'il leur disait, dans l'espoir qu'ils parviennent à le comprendre correctement. Ce qui l'épuisait physiquement et surtout moralement. En ce qui concernait le repas, il avait eu beaucoup de difficultés à faire admettre à ses hôtes qui ne désirait pas manger du rôpe aussi bien cru que cuit, même si la langue, mets de choix par excellence, lui était dévolue. Des signes de désapprobation étaient apparus sur les visages où les trois yeux semblaient briller de reproches lorsqu'il avait tiré d'une de ses poches une plaquette de nourriture concentrée et qu'il l'avait portée à sa bouche. Il dut encore patienter une couple d'heures avant que les participants au festin commencent à donner des signes de fatigue. Gavé, un peu étourdis par la consommation de leurs boissons légèrement fermentées, ils finirent par s'étendre les uns après les autres, à même le sol, sous la garde de trois d'entre eux, que le mulot castor avait initié au maniement des armes qui leur avaient été offertes.
« Bon, les petits gars, je crois que je vais prendre congé. »
Il se leva doucement, regarda attentivement autour de lui, mais nul ne lui prêtait attention. En quelques pas, il quitta la clarté pâlissante des foyers qui se mouraient lentement, faute d'alimentation, et se fondit dans l'obscurité. Enclenchant ses antigés, il s'éleva dans les airs et prit la direction de son glisseur qui l'attendait fidèlement au sommet de la falaise. Arcturus jaillit hors du néant, suivi par les 10 astronautes carsaciens qui l'accompagnaient dans sa recherche du mulot castor.
Bonne pioche!
S'exclama le pilote, Yves Mantel, un petit homme nerveux, tout en tendons et en muscles, au visage barré par une originale moustache à la Napoléon III. Il fallait posséder un singulier sens de l'humour pour trouver le moyen de plaisanter, alors que la petite armada des mercenaires débouchait au milieu d'un fourmillement de vaisseaux ventrus encadrés d'une myriade d'aiguilles volantes. Tout ce petit monde, semblant aussitôt n'avoir qu'un seul but en vue, pulvérisait les intrus qui venaient de se présenter devant eux. John Pavel ne fit qu'un bond jusqu'au système de transmission, arracha le micro de son support et cria
« À tous les commandants, passage immédiat dans l'entre-espace. Rendez-vous à 3 minutes lumière dans la zone nord-est du système Alpha 2 que nous avons repéré tout à l'heure. »
Avec une audace folle, Mantel lança son appareil, dont l'écran SH reflétait une lueur verdâtre qui nimbait le poste de pilotage au beau milieu de l'escadre adverse, tandis que les officiers de tir s'en donnaient à cœur joie, tous leurs engins de destruction en action. 12 secondes plus tard, l'Arcturus basculait dans l'espace linéaire après avoir porté quelques coups meurtriers à ses agresseurs.
Sympathique et convivial, ton lieu de rendez-vous,
lança John à l'adresse de Kalec. Steve eut un hoquet. Avec effort, il tenta d'ouvrir les yeux. Sa tentative fut couronnée de succès, mais une douleur sourde l'obligea à les refermer. Sa première réaction fut un grand soulagement de se sentir vivant. Il voulut se redresser, mais ses membres lui refusèrent tout service et une douleur dans le dos l'alerta. Une affreuse angoisse l'étreignit soudain. Et s'il était vivant, mais paralysé? Allongé sur le plancher qui présentait une gîte de 30 degrés, il respira profondément et entreprit une inspection mentale de l'état de son corps. Il se sentait moulu, ayant l'impression de s'être coltiné avec une armée de pachydermes. Mais peu à peu, en commençant par les mains et les bras, il obtint de légères réactions qui l'encouragèrent dans sa quête. Quand il parvint à bouger sa jambe gauche, une bouffée de joie l'envahit. Sa colonne vertébrale était indemne. Cependant, lorsqu'il voulait en faire de même pour la droite, une douleur fulgurante faillit lui faire perdre conscience. Le front ruisselant de sueur, il songea avec un humour noir.
« Le bonhomme n'est peut-être pas aussi frais qu'il le pensait. »
Prenant soin d'éviter de déplacer son membre blessé, il se tordit le cou pour tenter de voir ses compagnons. Avec soulagement, il aperçut Mazast qui se traînait péniblement dans sa direction.
« Alors, nous ne sommes pas encore morts ?»
Sa voix ressemblait à un coassement et arracha un sourire fugitif sur les lèvres exsangues de la jeune femme.
« Je t'avais bien dit que tu étais un incorrigible pessimiste. »
Elle s'assit près de lui et demanda
« Comment te sens-tu ? »
« Si je parvenais à plier mon genou droit, je pourrais dire que cela va aussi bien que possible dans l'état actuel des choses. Et toi ?»«
En tout cas, moi je n'ai rien de cassé, mais j'ai mal partout. »
« Et eux ?»
Il pointa son menton en direction du fond de la salle où Corton, Chris et le corps du radio avaient abouti suite au crash.
« Je ne sais pas. Je vais aller les voir dès que je t'aurai fait une piqûre de Vitaliv. »
Il appuya l'embout du pistolet injecteur contre sa jugulaire et pressa la détente. Un chouettement accompagna l'introduction sous pression du liquide tonifiant. Elle se releva avec précaution pour trouver son équilibre sur le sol en pente et l'abandonna après lui avoir donné une tape amicale sur l'épaule. Quelques minutes plus tard, elle put constater que, apparemment, l'état des deux autres blessés ne s'était pas aggravé, même s'ils étaient sans connaissance. Il n'empêche qu'elle était la seule à être encore valide dans le poste de pilotage. Steve avait réussi, en grimaçant, à s'asseoir sur l'un des fauteuils encore intacts. Il testait toutes les commandes dans l'espoir de trouver quelque chose d'encore opérationnel sur son malheureux cœur de Full Mallow 2. Mais en vain. Le brave petit vaisseau avait définitivement rendu l'âme.
« Cela fait le deuxième que je perds dans une mission avec toi. »
ronchonna-t-il à l'attention de la jeune femme.
« Bah, tu es tellement bien vu du Lord Amiral qu'il va t'en payer un nouveau. »
Sa boutade ne déclencha qu'un regard torve en réponse.
« Je vais voir dans quel état se trouve le reste de l'appareil, et surtout s'il y a des survivants. »«
S'il y en avait, ils seraient venus jusqu'ici. » »«
Pas s'ils sont blessés. Sur 5 personnes dans cette salle, je suis la seule à tenir encore sur mes jambes. C'est un vrai miracle. »
Il hocha la tête en poussant un gros soupir. À petits pas prudents, Maza s'emprunta la pente qui menait à la porte. Par chance, celle-ci n'était pas déformée et elle n'eut aucun mal à l'ouvrir. Contrairement au poste de pilotage, qui était faiblement éclairé par le fonctionnement d'un groupe électrique de secours, le couloir, lui, était plongé dans l'obscurité. L'agent de l'OMU sortit une petite torche d'une poche de sa combinaison. Précédée par un faisceau lumineux qui s'attardait sur les dégâts intérieurs du navire, elle enjamba des débris tout en poursuivant sa marche en direction du pont inférieur. Lorsque l'émir eut rejoint la nef moissonneuse, il eut le plaisir d'apprendre de la part de Rabotax 3 que le vaisseau serait apte à reprendre son vol dans une trentaine d'heures. Son exil sur silence ne serait donc finalement pas trop long, ce qui lui laissait l'espoir que Mazas et le cœur de Full Mallow 2 soient toujours à l'attendre lorsque l'astronef construit par le peuple saurien referait son apparition dans la zone où il avait vainement attendu des ordres de ses constructeurs pendant 250 ans. John Pavel lança un regard torve à l'antilan qui venait de manifester sa mauvaise humeur parce qu'il trouvait que la petite flottille de mercenaires tardait trop pour tenter à nouveau de joindre le lieu de rendez-vous prévu avec la nef de Stevomir Ersing.
« On a déjà perdu un bâtiment et tout son équipage !»
rappela-t-il.
« Et je n'ai pas du tout l'esprit suicidaire, ni pour moi, ni pour les autres !»«
Mazas est en danger !»
martela Arx de sa voix grinçante.
« Parce que tu crois que je l'ignore !»
gronda le colosse avant d'ajouter
« Ma sœur et Steve ne sont pas idiots. Ils ne sont pas restés à nous attendre quand la flotte des quartiers est arrivée !»
Kalec, coincé entre les deux, évitait d'intervenir dans le débat car, s'il comprenait l'impatience de l'octopode, qui était également la sienne, il ne pouvait qu'approuver la prudence du chef des Carsaciens qui venait déjà de voir disparaître une centaine de ses hommes avec la perte du gypsy. Espérant détendre l'atmosphère, il s'adressa au pilote.
« Est-ce que le message de la balise a pu être récupéré ?»
Mantel n'eut pas le temps de répondre, car la question déclencha aussitôt la colère du radio qui, comble de malheur pour Vorham, se trouvait être Vanek, le premier interlocuteur qu'il avait eu à son approche sur Karsak. Il éructa.
« Avec un accueil aussi chaud, tu crois vraiment que j'ai eu le temps d'effectuer des recherches de fréquence ? Si tu penses que tu aurais pu mieux faire, toi qui es si malin, tu aurais dû prendre ma place. »
Diplomate pour une fois, le rouquin esquissa un geste d'excuse et quitta le poste de pilotage. John se tourna vers le moustachu qui dirigeait le vaisseau de main de maître.
40 minutes d'attente, puis l'Arctarus refera un essai. Et même si nous débouchons au milieu de la flotte des Kertiers, j'espère que Vanek parviendra à enregistrer les coordonnées contenues dans la balise avant que nous replongions dans l'entre-espace. Quant aux autres unités, elles resteront sur place jusqu'à notre retour, dans la zone où nous sommes actuellement.
Le puits antigrave permettant d'accéder au pont inférieur étant hors d'usage, Maza s'activa sa ceinture et se glissa dans le conduit qui formait un angle de 30 degrés avec la verticale et qui la mena au niveau qu'elle voulait atteindre. Une sorte de luminosité blafarde attira son regard. Elle fit quelques mètres dans cette direction et s'aperçut que sa source provenait d'une déchirure de la coque, laquelle était encastrée dans un amas de glace translucide qui laissait passer des rayons lumineux. Mazas revint sur ses pas et reprit son chemin pour déboucher dans le couloir donnant accès à l'aire de détente de l'équipage. Sitôt qu'elle y fut parvenue, elle aperçut dans le puissant faisceau blanc de sa lampe la porte de la prison des Kerptiers sortie de ses gonds.
Merde !
Comme par magie, le radiant fut éjecté de sa gaine pour être dirigé d'une main ferme en direction de l'ouverture béante. La jeune femme s'avança lentement, sa torche tenue à bout de bras, le plus loin possible de son corps. Elle tendit l'oreille, mais ne perçut pas le moindre bruit. Elle s'accroupit et posa la lampe sur le sol, la lumière dirigée vers l'obscurité qui baignait la cellule. Elle ne découvrit aucune ombre suspecte, mais... si elle savait être téméraire lorsque cela s'avérait nécessaire, sa prudence lui avait bien souvent sauvé la vie. Aussi, elle se redressa, fléchit les genoux et effectua un superbe roulé-boulé pour atteindre l'autre côté de la porte. Cependant, son mouvement ne déclencha pas la moindre réaction et elle fut persuadée que la pièce était soit vide, soit occupée par des êtres inconscients. Elle ramassa sa torche et s'assura d'un rapide balayage qu'elle ne se trompait pas. Des Kerptiers, nulle trace. Un filet glacé lui coula soudain entre les omoplates. Connaissant la férocité des extraterrestres, elle appréhenda aussitôt ce qui avait pu se passer après qu'ils se soient libérés. Elle allongea le pas, malgré l'inclinaison du plancher, pour atteindre le dortoir où les membres d'équipage avaient dû se harnacher au moment du crash. La porte était ouverte, et un corps gisait sur le seuil. S'assurant qu'aucun adversaire ne se trouvait à proximité, elle se pencha sur l'homme revêtu d'un spaciandre dont le casque pendait sur les épaules, et le retourna. Dans le faisceau lumineux, elle aperçut un visage barbouillé de sang et reconnut Rorbach, l'un des deux éconides. Sa gorge portait une plaie béante et ses yeux étaient révulsés. Un horrible blasphème jaillit de ses lèvres. Elle se redressa et, enjambant le cadavre, pénétra en hâte dans la salle pour buter aussitôt sur un obstacle qui s'avéra être Tiromont. Elle s'agenouilla près de l'ancien franc-passeur dont la main valide s'agrippa spasmodiquement à son bras. Elle se pencha sur le moribond dont le visage était crayeux. Une bulle sanglante apparut à ses commissures tandis qu'il tentait de lui parler. Il approcha son oreille de sa bouche.
« Ma... Mazas... J'en ai eu un... Je ne crois pas qu'il ira très loin. Mais... fais gaffe... » aux trois autres. Ce sont de vrais tueurs.
Ne t'inquiète pas, mon vieux. Je vais appeler le robot médic pour qu'il s'occupe de toi. Puis, j'irai à leur poursuite.
Trop tard pour moi. Je te regretterai beaucoup, ma jolie.
Oh non!
Mais elle ne put que constater le décès du petit homme lorsque son corps s'affaissa dans ses bras. Avec amertume, elle murmura
« Rick t'a sauvé la vie, et moi, je n'ai pas été fichu de te la conserver. »
Écrasant rageusement une larme qui coulait sur sa joue, elle reposa doucement la tête de Tiromon sur le plancher, après lui avoir fermé les yeux, puis elle se releva. Dans le faisceau lumineux qu'elle promena autour d'elle, elle n'aperçut que des corps immobiles, et un sentiment de colère froide monta en elle. Fébrilement, elle alla ausculter tous les membres d'équipage, mais ce fut pour constater qu'ils avaient été massacrés du premier au dernier. Il n'y avait qu'un seul survivant, mais dans un état critique. Gasser, le second Éconide. Elle s'accroupit, saisit l'homme par un bras et une jambe, et se redressa en l'installant sur ses épaules. Puis, elle rebroussa chemin, à peine gênée par sa charge, pour rejoindre le poste de pilotage. Lorsque la jeune femme eut terminé son récit, après avoir donné les premiers soins aux blessés, Steve égrena un chapelet de jurons.
« Les salauds ! On aurait mieux fait de les abattre après les avoir interrogés. Pourtant, je me demande bien comment ils ont réussi, à quatre et désarmés, a tué 9 hommes bien entraînés.
Sur les 9, 3 ont péri dans le crash, et les 6 autres étaient sans doute plus ou moins blessés au sonnet.
Tenta de relativiser la Karzassienne qui ajouta
« Il faut croire par ailleurs que les Kerptiers sont plus résistants que les humains, peut-être de par la structure annelée de leur corps. Et comme ils peuvent voir dans l'infrarouge, ils ont pu quitter leur prison et vaincre sans gros risque leur adversaire dans l'obscurité. »
« Oui, de plus. » Ils doivent pouvoir respirer notre atmosphère, car je te rappelle que nous avions enlevé les casques de leur combinaison spatiale, ce qui ne semble pas les avoir gênés beaucoup.
Tu as raison, cela m'a échappé.
Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Il faut tout d'abord savoir s'ils ont quitté le vaisseau.
Pour se balader sur un monde glacé où l'air est presque sirupeux?
S'étonna le pilote.
Cela ne me surprendrait pas. Je ne connais rien à la manière de fonctionner de ces êtres. Mais je sais que dans mon cas, je n'aurai qu'une hâte, m'éloigner le plus rapidement possible de ma prison et de mes geôliers.
Ouais, mais toi, tu n'es pas un insecte géant.
Bon, si on suppose qu'ils sont toujours à bord, on est en grand danger, car ils se sont emparés des armes de leurs victimes et ils risquent de rappliquer d'un instant à l'autre. Cependant, je crois qu'ils n'y sont plus, car je n'aurais pas pu circuler dans les couloirs sans que je les découvre ou qu'ils ne m'attaquent.
C'est possible, mais je préférerais envoyer Hector en exploration.
Hector ?
Un sourire découvrit les dents du jeune homme. Il tendit le bras vers une des parois de la salle.
Tu vois ce bouton bleu près de la porte ? Appuie dessus.
Elle s'exécuta, et un pan du mur coulissa, dévoilant une niche abritant un robot de combat.
« Mazette, je croyais que ces engins n'étaient utilisés que par l'astromarine. »«
Tu l'as dit toi-même. Je suis bien vu du Lord Amiral. »
Elle eut une petite moue sceptique.
« Mettons. »«
Tu sais comment l'activer, alors programme-le pour qu'il aille s'assurer que nos amis les bébêtes ont bien quitté le navire. »
Maza se redonna vie à la machine de guerre, qui quitta le poste de pilotage après avoir reçu ses instructions. Dix minutes plus tard, Hector était de retour, confirmant qu'il n'y avait plus d'âme qui vive en dehors du central.
Alors, quelle est la suite?
Les Kerptiers ne pourront pas subsister longtemps à l'extérieur, quelle que soit leur constitution. Donc, ils vont certainement tenter de revenir, dans l'espoir qu'au moins un de nos engins de secours soit encore en état de voler.
Ça, ce serait étonnant. D'ailleurs, même si c'est le cas, il leur sera impossible de le sortir de la soute.
S'ils nous suppriment, ils auront tout leur temps pour découper une ouverture suffisante dans l'épave. Quant à leur nourriture, souviens-toi que les peuples qu'ils soumettent leur servent souvent de casse-croûte. Avec l'équipage du vaisseau, ils ont de quoi tenir un bon moment.
J'avais oublié ce détail. Bon, il suffit de programmer Hector pour les attendre et les supprimer une fois pour toutes.
Tu les prends pour des idiots ? Pour l'instant, ils ignorent s'il y a encore des survivants en état de combattre sur le cœur de Fomalo.
L'ex-cœur de Fomalo.
Maugréa-t-il. Faisant fi de l'interruption et continua.
Si c'est le cas, ils doivent bien savoir qu'ils seront attendus quand ils reviendront. Donc, logiquement, si le mot existe chez ce peuple, ils devraient se contenter de surveiller et de guetter s'il y a le moindre signe de vie. Du moins, aussi longtemps que les conditions extrêmes qui règnent à l'extérieur le leur permettront.
Donc, c'est bien ce que je disais, il suffit de les attendre.
Réaction simpliste, mon cher. S'ils se décident à attaquer de tous les côtés, nous ne serons qu'un et demi pour leur résister.
Tu sembles oublier Hector.
Pas du tout. S'ils restent à l'entrée du sas, ils risquent de se faire démolir par une série de tirs groupés. Et si ce n'est pas le cas, il ne pourra pas les empêcher de rentrer par une des nombreuses déchirures qui parsèment la coque du vaisseau, et peut-être de récupérer un moyen d'échapper à ce monde. Sa seule utilité réelle serait de le garder à l'entrée du poste de pilotage. Mais cela leur laisserait l'accès à tout le reste de l'astronef.
Alors, que proposes-tu ?
Sortir et les combattre à l'extérieur.
Tu es complètement folle !
Détrompe-toi. Si j'ai survécu à un grand nombre de combats avec les mercenaires de Karzak, puis à pas mal de missions pour l'OMU, c'est parce que j'ai toujours analysé les coups idiots où je m'étais fourré, afin de trouver la solution me permettant de m'en sortir sans trop de casse.
Et alors ?
Ils pensent être en position de force et ne s'attendront pas à être attaqués sur leur terrain.
Je suppose que je ne pourrai pas te faire changer d'avis.
Tout juste.
Bon. Comment espères-tu quitter le vaisseau sans être vu ?
En passant par un des trous de la coque, du côté où elle repose contre la falaise de glace. Je vais me frayer un passage au désintégrateur et j'espère en sortir assez loin dans leur dos.
Cela fait un sacré travail et ça ne sera pas évident.
C'est pourquoi je vais avoir besoin des services d'Hector. C'est lui qui creusera et refermera le passage derrière moi. Puis, il reviendra s'occuper de votre protection.
Parce que tu penses que je ne suis pas suffisant ?
Ta patte folle ne va pas te permettre des acrobaties habituelles. Et les trois autres sont dans les vapes encore pour un moment. Le robot ne sera donc pas de trop.
Tu as sans doute raison, mais je ne vais pas vivre pendant tout le temps de ton absence. Ne prends surtout pas de risques.
Il faudra bien que j'en prenne, mais rassure-toi, je ne suis pas un kamikaze. Et si je veux que tu continues à me faire la cour, il faut bien que je revienne.
Ouais.
Ton désabusé et sceptique à la fois. Elle lui sourit ironiquement et se dirigea vers la porte en annonçant
« Je vais m'équiper et je reviens chercher le robot. »
Pendant que l'émir rongeait son frein en attendant la fin des réparations de la nef moissonneuse, l'Arcturus s'apprêtait à quitter l'espace linéaire pour tenter à nouveau de recueillir le message surcondensé de la micro-balise qui lui donnerait les coordonnées du lieu de rendez-vous avec le cœur de Fomalo 2. Vanek, penché sur ses instruments et un peu vexé par son échec précédent, surtout parce qu'il avait eu lieu devant Kalec, se tenait prêt à sonder l'espace dès le retour dans le continuum einsteinien. En se jurant de ne pas se laisser distraire, même s'il pénétrait dans la gueule des enfers. Le frère de Mazas se tourna vers l'officier de tir, figé derrière sa console.
« L'Antoine, tu es paré ?»
Sans tourner la tête, le mercenaire passa machinalement la main sur son crâne rasé et répondit
« J'ai regroupé les commandes de toutes les armes de bord sur ma centrale. Si nous débouchons de nouveau au milieu de la flotte adverse, je serai prêt à tirer dans le tas. L'effet de surprise et les dégâts que nous leur causerons devraient nous laisser quelques instants de répit, avant qu'ils ne se ressaisissent et que nous leur servions de cible. »
John le remercia d'une tape amicale sur l'épaule. Kalec et Arx s'étaient installés sur des sièges face à la batterie d'écran. Après un soupçon d'hésitation, l'aîné des Pavel avait accepté leur présence sans dire un mot, mais il lançait parfois à l'Antilan un regard manquant franchement d'aménité, ce qui semblait indifférer totalement l'octopode.
M'étonnerait fort qu'ils partent ensemble en vacances, ces deux-là.
Songea le rouquin, l'œil brillant d'une lueur amusée.
Sorti de l'entre-espace dans 12 secondes,
annonça le pilote. La tension monta d'un cran dans le poste de commandement. Tel un bolide, l'Acturus jaillit hors de l'espace linéaire, tous ses détecteurs activés, pour émerger dans une zone déserte. Si déserte que John s'étonna auprès de Mantell.
Tu es sûr d'être sorti au bon endroit?
Ce qui déclencha une querelle de jurons de celui qui se sentait soudain atteint dans son honneur.
Évidemment!
Le chef des mercenaires n'eut pas le temps de s'excuser car Vanek poussa un cri de triomphe qui attira toutes les attentions.
Ça y est, je l'ai!
Quelques secondes plus tard, les coordonnées étaient enregistrées et introduites dans la positronique de bord.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Interrogea Mantell d'un ton encore blessé.
Essaie de savoir vers où se dirige l'armada des quartiers et vérifie dans le catalogue astronomique Arconide s'il y a des mondes habités sur leur route. Dans l'affirmative, il va falloir alerter les peuples qui risquent de se trouver sur leur chemin.
Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le 6e chapitre de Mazas Pavel, Un monde en héritage, d'André Bory. Nous interprètes K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Christophe dans les rôles de Sivomir Ersing et de Tiromon, Ezwa dans le rôle de l'émir, Kael dans le rôle de Kalek Voram, Michael Cadillac dans le rôle de John Pavel, Merzlin dans le rôle de Yves Mantell, Patrice dans le rôle de Vanek, Reggie Metalfox dans le rôle de l'Antoine et Christian Martin dans le rôle de Axe et à la narration. L'histoire appartient à l'auteur et est protégée par copyright. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons et est une production 2010 des éditions de l'Avenir. Pour tout savoir de nos productions, rendez-vous sur l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.